Voici donc les grandes lignes de l'actualité francophone de la semaine. Bienvenue dans l'accent des autres, votre rendez-vous hebdomadaire avec les médias francophones publics, Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et on va commencer avec les conséquences économiques de la crise sanitaire et avec vous, Amélie Tullet, parce que RFI organisait une journée spéciale cette semaine sur les défis économiques engendrés par la pandémie de Covid-19.
Oui, et si l'Afrique apparaît moins endeuillée que d'autres continents sur le plan sanitaire, la pandémie a un fort impact économique et social sur cette partie du monde.
En Belgique, le suicide d'une jeune femme de 24 ans a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de commentaires cette semaine. Jacques Remers, c'était une jeune indépendante.
Elle s'appelle Alison, elle était coiffeuse et barbière et elle avait été contrainte de fermer son salon pour des raisons sanitaires.
Au Québec, Sébastien Desrosiers, le Premier ministre passe une sorte de contrat avec la population. Il sera possible de fêter Noël en famille, mais à certaines conditions.
Des rassemblements de 10 personnes maximum, ce qui est tout à fait interdit présentement. Les écoles devront fermer pendant quelques jours pour permettre aux enfants et aux parents d'observer un confinement.
Les Suisses sont appelés aux urnes la semaine prochaine. Il sera question, Pierre Anchoffat, de la responsabilité des entreprises.
Oui, de leur responsabilité sur leurs filiales à l'étranger. Elles pourraient devoir répondre devant les tribunaux suisses des dommages causés par ces sociétés aux quatre coins du monde.
Enfin, en France, ce chiffre qui interpelle, un Français sur 10 dit avoir été victime un jour d'inceste. C'est ce qui ressort d'un sondage à l'occasion, cette semaine, de la Journée internationale des droits de l'enfant. Baisse de l'activité, hausse de la pauvreté, réduction des transferts d'argent, crise du tourisme, endettement et accès aux vaccins. On va donc débuter avec vous, Amélie, et avec donc les nombreux défis de l'Afrique face à la pandémie de coronavirus.
Selon les données officielles, le coronavirus responsable de la Covid-19 a contaminé plus de 2 millions de personnes en Afrique et fait plus de 48 000 morts à ce jour. C'est peu comparé aux chiffres dans d'autres pays du monde, mais à de multiples niveaux, les difficultés sont immenses. Fermeture des frontières, réduction du trafic aérien, l'Afrique est le deuxième continent après l'Asie le plus touché par la baisse du tourisme et des millions d'emplois sont menacés. De plus, les diasporas africaines souffrent de la réduction de l'activité partout dans le monde. Moins de revenus, c'est moins d'épargne pour aider les proches au pays. La Commission économique pour l'Afrique s'inquiète de la baisse des transferts de fonds vers le continent. Une baisse qui pourrait représenter un manque de 18 milliards de dollars cette année.
Et il y a aussi, Amélie, l'enjeu de la dette des pays africains.
Oui, le FMI appelle les pays du G20 à faire preuve d'audace pour aider l'Afrique à faire face au mur de la dette, par exemple en réduisant les intérêts. Un moratoire a déjà été mis en place, on le rappelle. Il y a aussi l'enjeu des vaccins. Olivier, l'Organisation mondiale de la santé affirme que des négociations sont déjà engagées avec Moderna. Des discussions avec Pfizer devraient également débuter pour obtenir des doses dès la commercialisation des vaccins. L'objectif de l'OMS, c'est vacciner 20% de la population des pays à faible revenu d'ici fin 2021. Pour cela, 5 milliards de dollars ont déjà été récoltés au sein de la plateforme COVAX. Il en manque encore plus de 4 milliards.
Oui, on notera à ce stade qu'en Suisse, Pierron, le gouvernement a débloqué des moyens supplémentaires pour venir en aide aux entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire.
Sa promesse initiale était décidément trop pingre pour sauver ce qu'on a appelé les cas de rigueur, notamment les sociétés actives dans l'événementiel et le tourisme. Le gouvernement a plus que doublé l'enveloppe prévue pour atteindre le milliard de francs suisses. Et puis, un geste aussi à signaler pour les clubs sportifs professionnels qui recevront des aides à fonds perdus, à condition toutefois de jouer la transparence sur les salaires des joueurs.
Les conséquences de cette crise aussi en Belgique. Une jeune coiffeuse de 24 ans s'est donc donné la mort cette semaine, Jacques. Elle avait confié son désespoir face à l'obligation de fermer son commerce.
Un barbershop au temps du Covid, c'est un commerce non essentiel. La jeune femme en souffrait, ses proches l'attestent. La situation professionnelle de la Liégeoise a joué un rôle important dans son geste. Rapidement, sa disparition a ému. Elle est devenue malgré elle le visage de nombreux indépendants ou d'autres catégories professionnelles qui se sentent victimes de la crise sanitaire parce qu'ils ont été obligés de fermer leur établissement ou de cesser leurs activités. Des fleurs, des messages de condoléances, des bougies ont été déposées devant dans le salon. Plusieurs initiatives ont été prises en signe de solidarité, dont une cagnotte pour ses funérailles.
Oui, pourtant, Jacques, un régime d'aide a été mis en place par les autorités précisément pour soutenir les indépendants.
Oui, c'est un régime qui prévoit notamment des primes ou des reports de cotisations, mais une partie des bénéficiaires passe à travers les mailles de ce dispositif. C'était manifestement le cas pour cette jeune fille qui avait ouvert son salon en août dernier et qui méconnaissait la réglementation. Tout cela a attisé le débat sur le besoin de mieux cibler ou d'encore mieux cibler les aides octroyées à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. L'impact psychologique de la crise sanitaire est supérieur à ce qu'on a vu lors de la première vague, a dit le Premier ministre. Cela nous a tous énormément touchés, a encore ajouté Alexander De Croo.
Et on ajoutera qu'en cas de détresse, il est toujours possible de parler et d'obtenir de l'aide en appelant le centre de prévention du suicide au 0800 32 123 0800 32 123. Au Québec, cette fois, tout rassemblement est interdit depuis le mois d'octobre, mais exceptionnellement, les fêtes en famille seront permises à Noël, mais à certaines conditions. Les écoles devront fermer pendant quelques jours pour permettre aux enfants et aux parents d'observer un confinement. Sébastien Desrosiers, le Premier ministre, propose à la population ce qu'il appelle un contrat moral.
Le Québec permet les rassemblements familiaux d'un maximum de 10 personnes pendant 4 jours, les 24, 25, 26 et 27 décembre. C'est effectivement exceptionnel. Ce genre de rassemblement a été interdit pendant la majeure partie de l'année. Mais en échange, les Québécois devront éviter les contacts une semaine avant Noël et une semaine après Noël, une sorte de confinement. Bon, à leur conséquence, les jeunes qui vont à l'école vont manquer quelques jours de classe. Ils devront quitter le 17 décembre, suivre des cours à distance. Certains d'entre eux ne reviendront à l'école que le 11 janvier. Le jeu en vaut la chandelle, selon François Legault, mais il y a un mais.
Tout ce que je vous propose, c'est sujet à ce que la situation ne se détériore pas d'ici le 24 décembre. Ça veut dire concrètement que tous les efforts qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour essayer de limiter les contacts, bien, ça va augmenter nos chances que ça soit possible de se voir à Noël.
Les restaurants, les bars, les gyms, les salles de spectacle du Québec, fermées pour la plupart depuis le 1er octobre, ne pourront pas rouvrir avant encore au moins 2 mois. Une industrie qui perd des millions de dollars. Mais bon, l'objectif est de donner du lest pour les fêtes tout en gardant la transmission au minimum et garder les écoles ouvertes tant que possible, parce qu'ailleurs au pays, l'Ontario pourrait les fermer. Les cas augmentent, la province étudie la question et pas très loin, à New York, toutes les écoles publiques sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Les Suisses diront le 29 novembre, dans 8 jours donc, si la responsabilité des entreprises suisses à l'étranger doit être renforcée. Et à une semaine du vote maintenant, Pierre-En, cette initiative populaire recueille une majorité d'avis favorables.
Le sondage publié cette semaine par l'audiovisuel public le montre. 46% des personnes interrogées ont la ferme intention de voter oui, alors que 32% sont déterminés à rejeter l'initiative. Toutefois, la proportion de non augmente sensiblement depuis le début de la campagne, alors que le camp des partisans est plutôt stable. L'issue du scrutin s'annonce donc serrée.
Alors au fond, que demande précisément ce texte ?
Eh bien que les entreprises suisses respectent, à l'étranger aussi, les droits de l'homme et les normes environnementales reconnues à l'international. En clair, elles devraient s'assurer des faits et gestes de leurs filiales, par exemple dans l'exploitation minière en Afrique. Et puis surtout, elles pourraient être tenues responsables et jugées selon le droit suisse en cas de dommages causés à l'étranger par une entreprise qu'elles contrôlent.
Est-ce que sur cette thématique, Pierre-En, on observe les traditionnels clivages gauche-droite ?
Partiellement oui, Olivier, avec les milieux économiques et la majorité bourgeoise qui se battent contre ce durcissement des règles, mais un comité de centre-droit a rejoint la gauche, les églises et les organisations non gouvernementales dans le camp des partisans. Pour l'écologiste Delphine Klopfenstein, c'est une question de valeur.
On est vraiment sur une discussion qui touche à l'éthique et c'est pour cette raison-là que les sondages sont aussi positifs, c'est parce qu'on touche vraiment à une question centrale au-delà des clivages politiques.
Le résultat se jouera donc à peu de choses, poussant chaque camp à mobiliser les indécis, à l'image du démocrate chrétien Sidney Camerzin qui, comme la majorité de son parti, votera non.
Ça pourrait se jouer à peu de choses. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des efforts vraiment très très importants qui sont déployés pour faire passer le message que cette initiative n'est pas le bon moyen pour un objectif louable.
On l'entend, la critique reste modérée, sans doute pour ne pas brusquer ceux qui hésitent encore. Verdict le premier dimanche de l'Avent.
Et en attendant ce verdict, on va se quitter avec ce chiffre glaçant. Il concerne l'inceste en France, donc un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste au cours de sa vie. C'est ce qui ressort d'un sondage de l'Institut Ipsos paru à la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant. C'était ce vendredi. 1 sur 10, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Sur ce sujet-là aussi, la parole se libère. Delphine Evenou.
Et un Français sur 10, c'est plus de 6,5 millions de personnes, l'équivalent de 2 à 3 enfants par classe, selon l'association Face à l'inceste qui a commandé ce sondage. Ça fait beaucoup de chiffres, mais ça donne une idée de l'ampleur du problème. Si les langues commencent à se délier, c'est grâce au mouvement MeToo, évidemment, même si finalement, on a peu parlé de ce qui se passe au sein des familles, car c'est l'ultime tabou, selon Isabelle Aubry, présidente de l'association Face à l'inceste.
Les personnes concernées sont très proches de nous. Donc à partir du moment où on en parle, on remet toute la famille en cause, on remet le nom de famille en cause et on jette l'opprobre sur ce nom. Donc en général, quand une victime en parle, hein, dans 85% des cas, on lui demande de se taire. Et on va privilégier la cohésion familiale.
L'association porte ses propositions depuis des années auprès des gouvernements. Elle réclame entre autres la création d'un crime d'inceste spécifique et une meilleure formation des professionnels qui sont en contact avec des enfants pour mieux les repérer. Le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, doit lui installer dans les prochaines semaines une commission d'enquête indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants, dont 80% ont lieu dans le cercle familial. Une commission avec magistrats, médecins, sociologues. On attend de connaître son budget et son calendrier.
Un reportage réalisé par Delphine Evenou pour France Inter. C'est ici qu'on va refermer l'accent des autres pour cette semaine. C'était votre rendez-vous avec les médias francophones publics. Merci à tous. Merci à RFI, à Radio-Canada, à la Radio-Télévision Suisse, à France Inter et à la RTBF. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.